The fourth and final speaker of the of this session is the Honorable Michelle Chancy. Dr. Chancy is the since 2008 has been the Secretary of State for Animal Production in the Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural in Haiti. He is originally born in Haiti, but grew up here in Quebec, and I'm sure he always hopefully still feels at home when he comes home here to Quebec, although he chose to go back to Haiti in 1986. So he has an extensive, certainly, a body of work that he has done in his own country. He is a veterinarian by training. After the crisis in 2010, he was in charge of the government focal point for relations with the World Food Program, at which he still is, and was coordinating the distribution of food and water aid in the country. He's worked in the many years he's in his professional life in Haiti, in the private and in the public sector. He's worked with veterinarians in a lot of coordinating activities around animal health and in relation certainly to human health. Specifically, has done work with small scale milk producers, coordinating their activities and work that has been recognized through at least two international awards. He's currently a member of the Presidential Commission in Haiti on hunger and food security. So welcome, Michelle.
Bonjour, merci pour l'introduction. Je vais faire ma présentation en français. Quand je vivais ici, j'étais pas très très anglophone. Donc pour ceux qui ne parlent pas français, I will try to give you some keywords. OK. Je vais partager avec vous un peu l'expérience haïtienne. D'abord, vous parler un peu de la caractéristique de la question de la sécurité alimentaire en Haïti. Nous allons voir également ce que le gouvernement réalise avec ses partenaires et les problèmes, éventuellement les solutions aussi, par rapport à ce grand défi qui est la sécurité alimentaire. Alors, d'entrée de jeu, ce que nous consommons en Haïti provient essentiellement des importations commerciales, plus de 50%, et la production nationale quand même assure environ 40 et 45% selon les années. National production, 45%, commercial imports, more than 50%. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, Haïti produisait 81% de ce qu'on consommait dans le pays. Sur ce tableau, vous pouvez voir comment a évolué la production nationale par rapport aux importations commerciales. Haïti est un pays essentiellement agricole. L'agriculture est encore le premier secteur d'activité avec entre 25 et 30% de contribution au PIB. Mais vous pouvez voir aussi dans ce graphique que les transferts d'argent des Haïtiens vivant à l'étranger, qui représentent plus de 10% de la population, représentent aujourd'hui la principale source de devises pour le pays. Alors, quelques chiffres pour comprendre la situation de la sécurité alimentaire. Haïti, 27 500 km², 10 millions d'habitants, et 60% des Haïtiens vivent en zone rurale. Nous avons 1 million d'exploitations familiales, ce qui veut dire que plus de 90% de la production agricole est réalisée par ces petites exploitations familiales. Donc, essentiellement, la production nationale, c'est le résultat de la production familiale. L'agriculture représente la première source d'emploi, avec plus de 50% des emplois actifs. Et malheureusement, c'est cette même population qui produit qui est le plus victime de l'insécurité alimentaire. Donc, 50% de la population vit avec moins de $1 par jour, alors que 50% des richesses du pays sont contrôlées par 5% de la population. Aujourd'hui, 75% des devises du pays sont utilisées pour des importations alimentaires. Donc, vous voyez que c'est un pays qui vit sous perfusion. La plus grosse part du PIB est constituée par les transferts d'argent. Ce sont les Haïtiens, donc, qui ont fui la pauvreté, essentiellement en milieu rural, qui se sont réfugiés en Amérique du Nord et dans les Antilles, et qui envoient de l'argent à leurs familles et qui permet à la population d'importer plus de 50% de ce que nous consommons. Donc, quelle est la situation de la sécurité alimentaire? Elle évolue un peu en dents de scie. Donc, sur 10 millions d'habitants, nous avons aujourd'hui environ 3 millions de personnes, donc 30% de la population qui vit dans l'insécurité alimentaire. Vous pouvez voir au cours des années une évolution un peu en dents de scie et qui correspond aussi à certains événements de catastrophes naturelles. D'abord, nous avons la crise alimentaire mondiale des années 87-88 qui a provoqué une augmentation de l'insécurité alimentaire. Cette même année-là, 4 ouragans ont frappé le pays avec une perte de 15% du PIB. Il y a eu le séisme du 12 janvier 2010 qui a fait grimper l'insécurité alimentaire de pratiquement de 1 million de personnes. Ensuite, en 2011-2012, la sécheresse, suivi encore de 2 ouragans en 2012, qui a fait passer plus de 5,2 millions de personnes en insécurité alimentaire, disons, transitoire. Donc, c'est un pays qui est extrêmement vulnérable, vulnérable parce que l'agriculture a été un grand prédateur de l'environnement, provoquant de la déforestation. 60% des terres agricoles sont des terres de montagne, et donc, aujourd'hui, avec n'importe quelle pluie, c'est la catastrophe. Donc, chaque fois, les efforts de la communauté internationale ou du gouvernement vont pour rétablir, avec de l'aide alimentaire, la situation pour réduire l'insécurité alimentaire, mais une situation qui est devenue chronique. Par rapport à l'assistance alimentaire, nous avons essayer de établir une relation entre les programmes de développement en utilisant l'assistance alimentaire comme un levier pour la production nationale. D'abord, en canalisant cette assistance vers le milieu scolaire, de façon à favoriser l'aide aux enfants, et en utilisant également un mécanisme d'achat de produits locaux pour l'assistance alimentaire. Ce qui a été une véritable bataille avec les organisations internationales qui considéraient qu'Haïti était trop pauvre pour produire sa propre nourriture. Alors qu'en fait, nous savons que c'est la libéralisation des années 90 qui a été un des plus grands facteurs de la dégradation de la production agricole. Donc aujourd'hui, le gouvernement et la société a quand même une vision claire. Nous avons des documents élaborés avec la société civile et avec le secteur privé, les documents stratégiques pour le développement agricole et pour la reconstruction du pays. Pour le secteur agricole, il y a également des propositions très claires quant à ce qu'il y a à faire par rapport aux investissements dans les infrastructures, dans les filières porteuses, pour les services agricoles et également pour améliorer l'accès au marché aux producteurs, des propositions qui sont en rupture avec la politique économique des 20 dernières années de libéralisation et qui nous mènerait vers une agriculture plus durable, qui soit efficiente et qui soit compétitive. Une agriculture aussi qui puisse respecter et réhabiliter l'environnement de façon à pouvoir également créer des revenus durables, stables pour les agriculteurs et des revenus dignes. À court terme, le gouvernement a mis récemment toute une série de programmes de filets sociaux pour les gens en insécurité alimentaire, qui sont limités à une partie de la population, mais qui donnent une série de résultats intéressants par rapport à ce qui ne se faisait pas auparavant. Et pour le secteur agricole, à chaque fois qu'il y a eu crise, il y a eu également des investissements de façon à pouvoir recapitaliser les exploitations agricoles frappées par les désastres naturels, soit en agissant sur les intrants, soit également avec des programmes, je pourrais dire, sporadiques pour la reprise de la production agricole. Un des points fondamentaux sur lesquels nous sommes en train d'insister, c'est le mécanisme des achats des produits locaux. Donc, avec nos partenaires de la communauté internationale, nous avons donc livré un véritable lobby pour travailler sur la question des achats des produits locaux. Avec le programme alimentaire mondial, par exemple, nous avons pu augmenter la contribution des produits locaux dans les programmes d'assistance alimentaire. Ça ne représente aujourd'hui que 5 à 10%, mais il y a moyen de faire une bonne planification pour arriver à 30% dans les 5 prochaines années. Avec le Brésil, nous avons pu introduire le lait dans les écoles, une filière qui est extrêmement intéressante. Haïti possède suffisamment de vaches normalement pour pouvoir remplacer toutes les importations commerciales qui représentent pratiquement le quatrième poste d'importation alimentaire du pays, avec plus de 60 millions de dollars américains d'importation de produits laitiers. Alors que les vaches haïtiennes sont là, on a près de 400 000 vaches femelles adultes qui seraient capables d'approvisionner le marché, mais par faute d'infrastructures de transformation, ce lait, produit fragile, ne peut arriver au marché. Donc, en fait, il y a urgence de pouvoir matcher, on pourrait dire, les programmes d'assistance alimentaire avec les programmes de développement, de façon à ce qu'on puisse augmenter la productivité pour pouvoir répondre donc aux besoins, améliorer l'accès au marché et aux services agricoles de façon générale. Ceci dans le but de produire des revenus durables et de façon à respecter également les défis par rapport à l'environnement. Mais cela demande des financements. Donc, pour le lait, nous avons monté un programme de transformation de lait qui permet aux petits producteurs qui sont propriétaires de vaches de pouvoir avoir accès au marché formel, mais également au marché des cantines scolaires. Et ceci grâce à une collaboration avec le Brésil qui finance actuellement ce programme. Un réseau d'entreprises qui sont affiliées à une franchise qui permet de rassembler les efforts, de garantir une certaine qualité, une homogénéité, et qui est adaptée à la situation de la paysannerie qui évolue sans électricité, en produisant du lait stérilisé de longue conservation qui peut être produit et distribué dans n'importe quelle zone rurale. Donc, ce genre de programme démontre qu'on peut, en recherchant des solutions originales, en même temps adresser les problèmes d'urgence et mettre un levier par rapport au développement durable. Donc, les programmes des achats locaux est un des exemples sur lesquels nous devons nous mettre d'accord avec nos partenaires. Nous devons aussi donner un appui aux organisations qui pourraient rentrer dans ce système. Je n'aurai pas le temps de parler d'autres filières, mais nous travaillons également actuellement sur le moringa comme outil pour la lutte contre la malnutrition, sous un système de franchise également comme celui du lait, ce qui peut nous permettre aujourd'hui de dire que nous avons des objectifs clairs qui sont partagés avec nos partenaires, bien qu'il y ait encore de grosses limitations par rapport à ce qui est la gestion des ressources. Aujourd'hui, trop d'ONG évoluent en Haïti. Nous avons environ 400 ONG qui évoluent dans le monde rural. Au niveau des cadres du gouvernement, vous savez, Haïti a perdu 83% de ses professionnels au cours des 20 dernières années. Une grande partie d'entre eux sont ici au Québec. Et le manque de ressources humaines nous conduit dans un cercle vicieux où on ne veut pas non plus nous confier les ressources financières puisque nous n'avons pas les ressources humaines pour pouvoir les gérer. Et tout cela conduit à une impasse, que nous devons souligner aujourd'hui, où malgré qu'il y ait un accord, un consensus sur ce qu'il y a à faire, mais comment le faire, la question reste encore entière. Merci.
Merci beaucoup, Michel.